donc 10h30, une pause jusqu'à 11h moins quart. Et puis ensuite, on arrête à midi moins quart pour les questions.
Alors, je vais peut-être me lever comme ça un petit peu. Après, peut-être que je me rassierai un peu pour lire. Donc, tout d'abord, vous tous de m'accueillir encore une fois. Toujours un plaisir de venir. Merci à Monsieur Mouchel Koubi d'organiser ce chiou. La fois dernière, on a fait pourri, mais on va essayer de dire quelques mots sur Pessah. D'avoir quelques visions sur Pessah, et notamment se concentrer sur la Haggadah de Pessah.
Un peu plus fort, si c'est possible.
Je vais.
Ça va augmenter.
D'abord, on a... avant de commencer à traiter le texte qui vous a été distribué, le texte qui vous a été distribué, c'est un texte du Chida. On ne présente pas le Chida. Il est enterré à Jérusalem aussi. Vu qu'il est enterré à Jérusalem, c'est parti un peu des Toshavim ici. Et le Chida va présenter une vision dans le passage de la Haggadah qui parle d'Arba Banim, va nous donner une idée de quoi parle la Haggadah, pourquoi le Baal Haggadah, on ne connaît pas donc, l'auteur du texte de la Haggadah, on suppose que c'est Chachamim, étant un Sheikh Zetak Dola qui ont écrit et qui ont composé la Haggadah en prenant des morceaux un peu à droite à gauche, on a l'impression que c'est un puzzle. D'accord ? En vérité, il y a des lignes de force dans la Haggadah qui courent, et il y a bien sûr un message d'une grande portée. Alors, Pessah fait partie des fêtes, on va dire, symbolique du peuple juif, du judaïsme. Je ne connais pas beaucoup de juifs, même pas peu pratiquants, qui ne connaissent pas ce que c'est Pessah, qui font Pessah d'une manière ou d'une autre. Pratiquant par exemple Kippour, Yom HaKippourim. Vous verrez beaucoup moins de juifs faire Shivichel Pessah, et malheureusement encore moins faire Shavuot. On les perd en route, quelque part, hein, sur le chemin. Mais Pessah, on est tous au rendez-vous.
Juste, cette étude est faite à l'Eilou Nishmat, Dominique, Ruth Simcha Bat,
Zemoul.
Tu as lu dans ma pensée, Bémet, je t'ai lu dans ma pensée, j'allais te faire un petit signe pour ça.
Merci.
Les gars,
les fois chez les mains, Shel.
Mesaouda Bat Sultana.
Ça va. Mesaouda Bat Sultana.
V.
Les gars.
Yeled.
Yeled,
Eliav Yosef.
Eliav Ben Yosef.
Non.
Eliav Yosef.
Ben.
Dominique. Ben Dominique.
Ruth Simcha.
Ruth Simcha. Kadosh Baruch Hu, je te le fois chez moi.
Amen.
En alefanon, ben Ruth Bisrut. Chag Kadosh Abba Alinu le Shalom. Chag Pesach.
Amen.
Donc je disais que la fête de Pesach, c'est un moment important. Et qui dimensionne la fête, qui dimensionne tout le judaïsme. Toutes nos fêtes, elles sont dimensionnées sur Pessah. Il n'y a pas une fois dans une de nos tfilotes où on ne fait pas la mention de la sortie d'Égypte, et donc automatiquement du problème de Pessah. À la limite, pourquoi ? Pourquoi suis-je obligé à chaque fois d'avoir une telle référence à Pessah ? Pourquoi Pessah, c'est si important ? Sans compter que Pessah, c'est une fête difficile. Difficile, j'entends les dames rire un petit peu, mais c'est un rire jaune, parce que c'est difficile, c'est pesant. Elle demande énormément de préparation, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les préparations que l'on fait ne sont pas celles qui font qu'on va obtenir ce qu'on va obtenir à Pessah. Je vais m'expliquer après. Donc c'est une fête qui est riche en halakhot, qui est très dense en halakhot, qui est riche aussi en préparatifs. Un mois de préparation, voire il y en a qui vont même plus, pour arriver finalement le soir de Pessah, si possible, pas RNT, si possible, réveillé, d'accord, pour pouvoir participer au Seder de Pessah. Alors de quoi ça parle? Il y avait un jour un paysan, le Magid de Douvna, il raconte qu'il y avait un paysan, il ne savait pas comment faire Pessah, c'était un juif. Alors sa femme et ses enfants, ils ont dit, ah, comment on fait Pessah? Le céder de Pessah. Alors là, il s'est énervé, il a dit à sa femme, écoute, va voir le voisin, le hameau voisin par la fenêtre, voir comment ils font. Et tu reviens, tu nous dis, on fait pareil. Donc la femme est allée dans la nuit et elle arrive devant le hameau, elle regarde par la fenêtre. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le mari en train de frapper sa femme, s'énerver en train de frapper sa femme. Elle, dit, elle regarde Amouma, comme ça, perplexe, elle retourne dans la maison, et son mari dit, alors, nous, alors, qu'est-ce que tu as vu? Elle dit rien. Qu'est-ce qu'elle a raconté? Elle dit rien. Elle dit, non, mais alors, qu'est-ce que tu as vu? Tu es allé? Oui, je suis allé. Alors, qu'est-ce que tu as vu? Elle ne veut pas parler. Une fois, deux, il se commence à s'énerver, il prend un bâton, et la femme lui dit, puisque tu sais, pourquoi tu m'as envoyé? Alors, bien sûr, Pessard, c'est pas ça. Pessard, c'est pas ça. D'accord? Il y a autre chose. D'accord? Et notamment Pessard, c'est la fête de ce qu'on appelle du conditionnement de nos traits de caractère. Ce qui domine à Pessard, comme on ne le voit pas, c'est de savoir comment un homme va sortir de devenir un animal pour obtenir la Torah et devenir donc de passer par une phase de devenir un homme. Soit dit en passant, si vous regardez les signes du zodiaque des trois mois qui couvrent la période entre Pessah et Shavuot, vous verrez que le signe du zodiaque de Pessah, c'est le bélier. Et le bélier, généralement, c'est un animal qui vient au troupeau. Hein, vous prenez le chef du troupeau, vous le jetez par la falaise, tout le monde suit. Hein, de l'expression en français, vers le troupeau. Le mois de Yar qui suit Omer, c'est un taureau. Le taureau est un animal qui ne vit pas en troupeau. Il est isolé. Mais déjà, il est déjà assez buté, c'est ce qu'il veut. Pour arriver au mois de Shavuot, que le mois des Gémeaux, et les Gémeaux sont deux, et deux qui se regardent. Donc même dans les mois de l'année, dans les signes zodiaques, on voit qu'il y a une évolution. Et en fait, c'est une évolution qui va nous suivre. Quand on comprend ce qui se passe à Pessah, on comprend effectivement où est notre devoir et notre tâche pour arriver à Shavuot et faire ce qu'on a à Shavuot, avoir ce qu'on appelle Matan Torah. Je précise Matan Torah, pas Kabbalat Torah. Il y a une différence entre le don de la Torah et la réception de la Torah. Le don de la Torah, il a toujours lieu. C'est comme si vous me dites qu'il y a une émission de radio, elle émet constamment. Si vous n'allumez pas le poste radio, vous ne risquez pas d'entendre. D'accord? Quelqu'un peut dire, monsieur, j'entends pas. Mais il faut peut-être allumer. Le moins des choses. Donc, on dit Matan Torah. C'est-à-dire que Jboukhou lui donne. Kabbalat Torah, hein, ça nécessite tout le Homer. Et ça nécessite de comprendre ce qui s'est passé à Pessah. Première introduction. Deuxième chose, avant de commencer à parler du texte, qu'est-ce que c'est que du Hametz? Pourquoi la Torah nous demande de combattre avec force le Hametz et le Seor, c'est-à-dire le Hametz du pain, ce qui est le vin, et la levure, le Seor, avec des Chumrot qui nous mènent pratiquement à parmi les sanctions les plus graves de la Torah, qui sont ce qu'on appelle Karet. Pourquoi? Vous savez qu'à Pessah, même, pendant la fête de Pessah, le Hametz, ou l'omid batel, a fait le béaluf. Le Hametz ne peut pas s'éliminer même contre 1000. D'accord? Le Hametz avant Pessah s'élimine à 60. D'accord? C'est ce qu'on appelle bitul bishishim. Et quand on arrive à Pessah, d'accord? Quand on est à Pessah, le Hametz ne peut pas disparaître. Pourquoi il ne peut pas disparaître? Si vous mettez une quantité qui est infinitésimale de Hametz dans un plat, mazem shaneh. On n'a pas le ta'am, on sent rien, ça ne change rien du tout. Et pourtant, tout le plat est condamné. D'accord? Si on a un Hametz mamash. Question? D'autre part, la Torah nous parle de Seor aussi. Elle nous parle de levain. Elle ne parle pas que simplement de Hametz. Elle parle aussi de Seor. Et le Seor nous dit Tashbitu. Elle parle de Tashbitu. De détruire, d'éliminer. Le Seor, c'est le levain.
La levure.
On a une règle dans Pessah, dans la Halakha. C'est que tout aliment qui n'est pas consommable par un chien peut être consommé. Voilà un Hametz qui s'appelle Hametz Nukshe. C'est un Hametz, d'accord, qui a perdu son statut de Hametz. Vous le donnez à un chien, il ne le mange même pas. Comme par exemple un médicament, d'accord? On peut le garder, Pessah. Prenez de la levure fraîche, vous achetez au supermarché. On appelle en hébreu shmarim. En hébreu contemporain, on appelle ça shmarim. Mais dans la Torah, on appelle ça seor. D'accord? Vous le prenez. Vous pouvez manger ça, vous ne pouvez pas manger ça. Vous le donnez à un animal, non plus il ne mangera pas ça. Pourquoi on ne peut pas le prendre? Autre question. Pour résumer ces questions, je vais les regrouper et vous donner trois indicateurs de définition du Hametz par rapport à Pessah et ce qu'en tirent nos sages. Le Shem Ishmoel, dans la Haggadah, le Shem Ishmoel vivait à Niftar en 1930. Son fils, le Chassid David, fait partie de ce qu'on appelle la Chassidut de Hamshinov. Actuellement, ils sont à Beit Vagan. Ils étaient à Varsovie. Le Chassid David, qui était le fils du Shem Ishmoel, qui a commenté la Haggadah de Pessah aussi de son père, est décédé au gâteau de Varsovie pendant la guerre. Vous allez voir, quand je parle de ça, si vous regardez la Haggadah qui est écrite dans un langage extrêmement court et codé, le Rav ramène énormément d'enseignements qui sont de confrontation avec ce que nous, on ne peut pas voir, mais ce que c'est que des inouïm, c'est-à-dire avec une confrontation d'ennemis du peuple juif en face. D'accord ? Et lui, il écrivait, il a commenté, le Chassid David, qui a le commentaire sur la Haggadah du Shem Ishmoel. Il dit ça suivant, dans la Gemara de Pes de Psachim, Daf He Amud Alef, là-bas, il y a un Mahamar, qui dit la chose suivante. Les Tané Rabbi Ishmael, au nom de Rabbi Ishmael qui est un Tana, Bishar Shlosha Rishon, Zahou les Shlosha Rishon. La Chrit Zahou Shel Esav, Libinyan Bet Amigdash, Bishmo Shel Mashiach. Hakar, la Gemara commente. Je traduis. Rabbi Ishmael, il dit la chose suivante. Pour le mérite de trois choses, qu'on appelle Rishon, d'accord ? Les Bnei Israël ont mérité trois choses qui s'appellent Rishon. Rabbi Ishmael ne nous explique pas les trois premiers Rishon, il va nous expliquer les trois Rishon dont on va bénéficier. Qu'est-ce qu'on va bénéficier ? De détruire la descendance de Esav, la construction du Beth Amikdash, troisièmement, le nom du Mashiach. Vous allez tout à l'heure vous parler du nom, regardez, le nom du Mashiach. Rashi à la Makom, sur place, Rashi, ça lui pose problème. Cette sentence de Rabbi Ishmael. Il dit Bishrach Shlosha Rishon, du mérite de trois Rishon. C'est quoi ces trois Rishon? De quoi tu nous parles? Tu nous as parlé qu'on mérite trois choses. D'accord? De détruire la descendance de Esav, qui était notre ennemi. Vous savez que Esav, sonnait Yaakov, c'est une halakha. Nos ennemis implacables, ce sont les descendants d'Esav. D'accord ? Qu'on a le Binyan Beit Hamikdash, la construction du Beit Hamikdash, et troisièmement, d'accord, que l'on mérite le nom du Mashiach. Autrement dit, qu'on connaît le Mashiach, qu'on reconnaisse le Mashiach, qu'on le reconnaisse comme étant le Mashiach. Mais c'est quoi les trois qui font que je vais avoir ça, si je les respecte ? Rashi nous dit, Shvitat HaRegel BePesach, Shvitat HaRegel DeChag, Ventilat Lulav, Shenikreu Rishonim. Il dit Rashi, trois choses sont appelées Rishon. Autrement dit, il y a dans le pasouk dans lequel c'était indiqué dans la Torah, à chaque fois le mot Rishon revient. Le premier jour de Pessah. Vous savez que Pessah, malgré le fait qu'on dise que Pessah, ça démarre le 15 du mois de Nissan, d'accord, le 15 du mois de Nissan est appelé Rishon. D'accord. Deuxièmement, le premier jour de la fête de Sukkot est appelé aussi Rishon dans la Torah. Et le premier jour où on fait Nitilat Lulav, s'appelle aussi Rishon. C'est écrit comme ça dans le Pasouk. C'est trois psoukis.
C'est Sukkot.
C'est le même. Non, mais à l'époque, il y avait le Nitilat Lulav, c'est une mitzvah bifnatzma. Il y a la fête et il y a la mitzvah.
Non, mais c'est le même temps.
Admettons que vous n'ayez pas de Lulav. Dans une ville, vous n'ayez pas de Lulav. Vous n'avez pas de Haïtrog. Vous ne méritez pas la fête.
C'est la fête, là.
On fait Rishon.
Vous êtes ce qu'on appelle Shivitat Achag. C'est de s'arrêter et respecter la fête. Comme Shvitat de la chante Shabbat. Stopper. D'accord ? Donc, il y a le respect de la fête. Mais après, comme tout à l'heure, je donnais l'idée d'une radio. Chaque fête a une antenne particulière qui permet de capter ce que quelque chose nous envoie. À Sukkot, ça va s'appeler la Souka, ça va s'appeler le Lulav, ça va s'appeler la Kafot, ça va s'appeler. Sauf à Simchat Torah, on n'a rien. Tiens, voilà, Dafka, une fête où on n'a rien. Il y a une explication sur ça. Et ça qu'on a besoin des matzot, des arba kosot. Et on a surtout besoin de combattre le Hametz. Vient ici, le Rav, il nous dit que les trois sont appelés Rishon. De ces trois-là, on mérite les trois. Vient le Shem Ishmoel. Et commente le Maharal de Prague, qui commente cette Gemara. Le Maharal de Prague, il dit la chose suivante. Il est cholek sur Rashi. Il n'est pas d'accord avec Rashi. Il dit d'accord pour les deux autres, premier. Mais le premier, pour lequel on va mériter de détruire la descendance de Esav, autrement dit de l'éliminer, c'est pas le premier jour de Pessah. C'est le passage où il est écrit, Yom Rishon, Seor, Tashbit ou Taseor. Le Seor, la destruction du Seor, qui est aussi appelé Rishon dans la Torah, c'est ce Rishon-là qui fait qu'on va détruire Esav. Et il ne parle pas de Esav, il parle de la destruction, de l'élimination de Amalek. Pourquoi ? Parce qu'Amalek est un descendant de Esav. Alors maintenant, suivez-moi. Rabbi Ishmael dans la Gemara, il nous dit, quand vous respectez, quand vous détruisez le Hametz, ça c'est une chose. Si vous détruisez le Hametz comme il faut pour ne pas en posséder Bali Rei ou Bali Matzé, avant la fête de Pessah, on a toutes les chances en tant que peuple juif de ne pas être sous le joug ou d'être combattu par Amalek et ses descendants. Ça nous donne une idée d'ailleurs où on est nous. Notre peuple juif de façon collective par rapport à ce qu'on vit maintenant, par rapport aux attaques que l'on a. Ça nous donne une mesure. Combien dans le peuple juif respecte à 100% les fêtes de la fête de Pessah ? Tov, Ba'at Hashem, sans faire de kitroug. Donc ça nous donne un ordre de grandeur. Maintenant, le rabbi dit la chose suivante. Le rabbi ramène un midrash. Il ramène le midrash suivant. Eliphaz, vous connaissez Eliphaz, c'était le fils de Esav. C'est lui d'ailleurs qui a voulu, était envoyé pour tuer Yaakov.
Il va négocier. Le neveu d'Yaakov,
qui va être envoyé pour tuer d'ailleurs son oncle. Le fils d'Eliphaz s'appelle Amalek. À la fin de ses jours, Eliphaz, le Midrash raconte que Eliphaz appelle Amalek, son fils, et lui dit la chose suivante. Tu sais, mon fils, Aolam Abba Metukam Rakle Israël. Le Olam Abba, il est destiné qu'au Né Israël. Asma, va les aider. Autrement dit, s'ils ont besoin de puits, aide-les à creuser des puits. Si je traduis de façon contemporaine, donne-leur les outils technologiques, ou de l'armement, ou je ne sais pas quoi, ou des produits, ou des installations, des infrastructures. Aide les juifs à pratiquer leur Torah. Et par ce biais-là, tu mériteras ton mérite, Amalek. Amalek t'a pas supporté. Il n'a pas supporté que le peuple juif ait ça, et soit l'unique détenteur de l'accès au Olam Haba. Et il a cultivé ce qu'on appelle Ge'ut ve'itnaseut à l'Israël. Ge'ut naseut, une haine provenant d'une gaava. C'est ne pas supporter l'autre en tant que tel. Ne pas supporter que lui mérite et moi j'ai pas accès. Alors que son père lui a dit, va l'aider, tu vas mériter aussi. D'accord ? Comme quelqu'un qui arrive au Gan Eden, le deuxième, il a dit non, les valises, il dit, et toi, tu rentres, mais toi, tu ne peux pas rentrer. Il dit, non, je porte les valises de celui qui est passé. Sont entendu, il ne peut pas mériter, mais comme il porte les valises de celui qui était avant, qui mettait au Gan Eden, il s'est rentré au Gan Eden. Top. Il dit, première chose, le Hametz, vu que le Hametz est comparé à Amalek, d'accord, le combattre, combattre le Hametz, c'est nous aider à combattre Amalek. Et c'est aussi à combattre ce qu'on appelle la Geout, la Gava. Et c'est ce qui se traduit par Pessah, la différence entre du pain, comme vous savez bien sûr, entre du pain et de la matzah. Il y a plus la différence, bien une chose que vous avez déjà entendue, que le pain est rempli d'air, la matzah n'a pas d'air, mais il y a plus que ça. Pour faire du pain, vous êtes obligé de laisser reposer la pâte. Quand vous faites du pain, comme les gens font du pain, même les hommes qui font du pain aussi, d'accord ? Quand vous faites le pain, vous laissez reposer un certain temps la pâte. Plus vous la laissez reposer, plus elle gonfle. D'accord ? Ça donne le caractère joyeux du pain, ce caractère un peu impressionnant, spectaculaire. La matzah, c'est un aliment qui nécessite une péoula constante. Je ne sais pas si vous avez le mérite de faire ce qu'on appelle de faire les matzot. Vous ne pouvez pas vous arrêter. C'est un aliment qui traduit l'activité permanente de l'homme. Vous êtes obligé de travailler la pâte tant qu'elle n'est pas allée dans le four, bien sûr dans le temps des 18 minutes qui nous est imparti pour faire, entre le moment où on va mélanger l'eau et la farine, jusqu'au moment où ça va rentrer dans le four. D'accord ? On doit constamment travailler. Donc la matzah est le symbole de la péhulout, le symbole de l'activité. Elle combat ce qu'on appelle la fainéantise, ou du moins le relâchement des forces, qui est propre, selon la Torah, à toutes les dérives, en tout cas à tous les problèmes que l'on a. D'accord ? Et si, tout à l'heure, on va revenir après que l'Akhida, vous allez voir de quoi il parle, la société contemporaine dans laquelle on vit est une société. Là, actuellement, bien sûr, on vit actuellement, si vous écoutez la presse, etc., on vit on se rapproche du temps du Mashiach. Moi, c'est quelque chose, il faut le prendre de façon avec du recul et de façon posée. Mais on voit bien qu'il y a un combat de force, qui sont des combats de force tarboutites au niveau culture, de fond. C'est pas. C'est au-delà des problèmes politiques, des problèmes de société en Israël. C'est beaucoup plus que ça. C'est pas la couleur d'une kippa qui fait la différence. C'est au fond, d'accord ? La société contemporaine, elle met en valeur l'activité de repos, l'activité de vacances, d'accord ? Le minimum de travail, le McDonald's, le fast-food, tout ce qui est Internet, tout ce qui est facile est délivré de façon facile, qui ne nécessite pas un travail. Ce qui est le contraire du système du chinour dans la Torah. Le contraire du chinour dans la Torah. Maintenant, quand vous voyez maintenant que toute la base du chinour de la Torah est basée sur la Gada de Pessah, comme on dit, vous savez qu'une des mitzvot d'Eoraïta de la Gada, c'est l'Agitra et Pintra, de parler à son fils. Autrement dit, le système du chinour est basé sur un système qui repose sur le Peula, c'est-à-dire l'activité. Plus tu travailles, plus tu mérites. Mais ce n'est pas un travail, c'est pas prendre un travail comme étant un fardeau, comme on dit un mot à la mode, un netel en hébreu. Pas le prendre sur un fardeau. Le prendre comme étant un chérout. C'est-à-dire, en fait, l'activité que j'ai, c'est celle qui permet de m'affirmer et de confirmer pourquoi je suis dans ce monde. D'accord ? Donc la matzah, elle est le symbole de ça. D'accord ? C'est pour ça que les nos sages, elle est plus qu'un pain de Emouna, elle est un pain aussi, disent le Zohar, de santé. On dit qu'elle apporte la santé. Vous savez que le mois de Iyar, juste j'ouvre une parenthèse pour tout le monde, le mois de Iyar, le Bnei Issachar dit que le mois de Iyar, c'est le mois où tombait, tout le mois de Iyar, tombait la manne. La manne a commencé à tomber au mois de Iyar. Et on dit que le mois de Iyar est un mois qui est Mesugal à la refoua. Donc si, Dieu préserve, vous ne soyez pas amené à faire ça, mais si vous devez vous faire, à faire quelque chose, une opération que vous connaissez, le mois de Iyar, et particulièrement en Israël, est Mesugal Arefoua. D'accord ? D'ailleurs, c'est les otiotes du mot de Iyar, Hachem, Ani Hachem Rofecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. Donc la première notion, c'est que la matzah représente, d'après Rabbi Ishmael, donc Esav, donc Amalek. Ici, c'est Amalek, ça représente ce qu'on appelle la notion de Geout, Natseout. Geout, Gaava, orgueil, et Natseout, domination de l'autre. Vous comprenez maintenant que si c'est ça, le moindre problème de Geout, ou de Gaava, ou de Natseout, ne peut pas être éliminé. Quelqu'un qui a un sentiment de domination sur les autres, ne peut pas l'éliminer. Il ne s'élimine pas dans la masse. Même si c'est une grosse masse, il est indélébile, il est insoluble dans la masse. Si le Hametz est comparé à ça, on comprend pour le Pessah, vous ne pouvez pas l'éliminer. Il est constamment là, même si vous ne le voyez pas. Premier enseignement. Deuxième enseignement, toujours le Maharal de Prague, toujours sur la même Gemara, d'accord ? Il nous dit que pourquoi ça s'appelait Seor ? Comme je vous disais tout à l'heure, on a posé la question, le Seor, il n'est même pas mangé par un animal, même pas un chien n'arrive à manger du Seor. Pourquoi il ne serait pas interdit à Pessah ?
C'est pas autorisé.
Il n'est pas autorisé, bien sûr.
Pourquoi il ne serait pas autorisé ?
Pourquoi il serait pas autorisé de, au moins, du moins, le garder à Pessah ? D'accord, on doit le garder. Le Seor à Pessah, il a un problème, c'est que lui, il fait fermenter les autres. C'est-à-dire que lui ne fermente pas, mais il provoque les autres, chez les autres, la fermentation. Vous prenez de la levure, vous la mettez dans du pain, d'accord, ça accélère dans du pain ou dans. Donc il est un incitateur des autres, quelque part à fauter. Pour ça, la Torah le combat de toute sa force. En regard de ça, vous voyez que la Torah nous dit que Amalek dans la Torah, il faut éliminer son nom. Ça s'appelle Milhemet Lachem. C'est un combat, une guerre contre l'Éternel, d'accord ? Amalek, on a une fête. On a la fête de Pourim, mais on a aussi Shabbat Zachor, où on doit éliminer le Zecher Amalek, d'accord ? Toute trace d'Amalek. On n'a pas le droit de recevoir dans l'âme Israël des convertis provenant de Amalek. Et si vous regardez de façon proportionnelle dans l'histoire du peuple juif, le mal que nous a fait Amalek, c'est pas considérable. Je peux mettre en rapport des nations qui nous ont fait beaucoup plus de mal qu'Amalek. Vous prenez les Espagnols, vous prenez les Allemands, vous prenez les Égyptiens, vous prenez les Babyloniens, vous prenez les Romains, les Grecs, les Perses, les Mèdes, et j'en passe. Et les peuples arabes dans lesquels le peuple juif a été mis de galgel, et même les peuples d'Europe, d'accord, avec les pogroms, etc. Si on devait proportionnellement prendre la sanction qu'on applique à Amalek, alors qu'est-ce qu'on devrait faire pour les autres ?
Ils ont disparu.
Ils ont disparu. En tant que peuple, ils ont disparu. En tant qu'eux-mêmes, ils ont disparu. Mais Esav, lui, Esav n'a pas donné qu'à Amalek. Il a donné. Puis Ishmael n'a pas donné. Ishmael, même s'il a participé un petit peu à la conception d'Amalek, Ishmael a donné des peuples aussi. Ces peuples-là aussi nous font souffrir.
Oui, mais ils représentent Amalek, en fait.
Non.
Ces peuples-là.
Non. Ah. Non. Yachivim, il y a 70 nations. On regarde du peuple juif. Donc, je vous avais dit la fois dernière qu'il n'y a pas deux fois deux haïnes, vous ne trouvez pas deux haïnes dans la Torah. D'accord ? Je vous l'ai dit la fois dernière ?
Non, il vaut mieux qu'on reste dans le...
On le sujet.
On ne posait pas les questions parce que sinon on va que quitter
ouais,
le...
Bon, le chidouche, là, il faut le donner. Là.
Il n'y a pas dans la Torah... Vous trouvez dans la Torah toutes les lettres une à côté de l'autre. Un aleph à côté d'un aleph. Je vous donne un exemple. Vous avez deux mots. Vous avez le mot gag en hébreu qui veut dire le toit et c'est écrit dans la Torah. Guimel, guimel. Bet, bet. Aleph, aleph. Mem, mem. Nun, nun. Chet, chet, chach, par exemple, chach, kozam, chach, c'était des boucles d'oreilles, d'accord ? Et une seule là dans la traduction que vous ne trouverez pas une à côté de l'autre, c'est le haïn. D'accord ? Pourquoi le haïn ? Parce que le haïn représente 70, c'est-à-dire comme le vin. La valeur numérique du vin, c'est 70. La valeur numérique du sod, c'est 70. Donc 70, yaïn. Okay. 70, c'est la valeur numérique de haïn, de la lettre haïn. Comme elle représente 70 nations qui descendent de Noir, d'accord, qui vont se ramifier en quantité de nations qu'il y a maintenant, peu importe. La base, quand le Mashiach viendra, tout le monde se recoupera sous son drapeau ou son ange tutélaire, il y aura 70 nations. En regard de 70, on a l'âme Israël qui est appelé aussi 70. Combien ça rentrait en Égypte ? Shivim Nefesh. Les 70 du peuple juif, d'où va sortir le peuple juif, sont en regard les 70 nations. Une neshama pour un peuple. Une neshama pour un peuple. De 70 nefesh, de la base. D'accord ? À cause de ça, c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs un mavdil ben kodesh lechol, un mavdil ben Israël et la Amim. Dites-moi, pourquoi dans le Avdala, vous séparez le peuple juif des autres nations ? Vous n'êtes jamais posé la question, qu'est-ce que ça vient faire dans la Avdala ? Qu'est-ce que ça vient faire dans la Avdala ? La séparation, un jour, il y avait le Ben Ishraï, vous connaissez le Ben Ishraï ? Il avait 8 ans. Il a eu un marloquet avec son frère. Son frère plus cadet, qui avait 6 ans, voulait allumer le nerf de Havdalah. D'habitude, on donne le nerf à... Généralement, les femmes allument le nerf. Mais lui, il voulait allumer le nerf, et son frère voulait allumer le nerf. Vous savez, les enfants, ils se disputent. Le papa, hein, qui était Rabbi Moshe Chaim, qui était le Rav Arashi de Bagdad, appelait son fils, Rabbi Yosef Chaim, qui était tout petit. Il lui a dit, mon fils, si tu me donnes une explication qui vaut la peine, je te laisse allumer les nerfs. Alors le fils, il a dit, papa, 8 ans, hein, Mishraï, la Havdala, elle est construite sur un système où c'est quelqu'un qui est bardat, quelqu'un qui comprend, qui peut la faire. Alors le père, il a dit, non, très bien, explique. Il dit, comment ça commence ? Bourré Péré à Geffen, ça commence par la bouche. Après, qu'est-ce que vous avez ? Bourré, Miné, Samim. C'est le nez. Après, Bourré, Moréèche, ça arrive aux yeux. Et après quoi ? Amavdi ben kodesh lechol. On termine Amavdi ben kodesh lechol. Sous-entendu, celui qui est fait Amavdi ben kodesh lechol, c'est quelqu'un qui est bardat. Il faut savoir la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a donc une élévation dans le kiddush. Quand on arrive à la fin, on arrive à séparer les deux. Il dit, pas kasha. Bien sûr qu'il a donné allumer les nerfs, le nerf, pour l'explication qu'il a donnée. Le Ben Ishraï ramène ça dans Père. Alors, je crois qu'il ramène cette histoire-là quand il était petit. Pour vous dire qu'il y a une séparation des peuples. D'accord ? Maintenant, le peuple juif qui a été confronté avec ces nations-là tout au long de l'histoire, d'accord, il n'y a pas un peuple pour lequel on a une sanction de vengeance comme on l'a avec Amalek. Il n'y en a pas. Et Dieu sait si on a souffert terriblement des autres peuples. Les Égyptiens, à partir de la troisième génération, on peut les prendre dans des convertis. D'accord ? Les Ammonites, les Moabites, on peut prendre leurs femmes. D'ailleurs, Ruth est sortie. À la dixième génération, ils peuvent revenir dans le peuple juif. Les descendants d'Edom. D'accord. Vous prenez les descendants de Esav, Abraham, Amalek, les autres Esav, les descendants d'Ishmaël, vous les prendre. D'accord. C'est vrai que de notre temps, Amalek s'est dissous dans les autres. Exactement comme la levure. Et si vous prenez quelqu'un comme Hitler, par exemple, Marchimo, ou les 10 dignitaires nazis qui sont morts pendant le procès de Nuremberg, d'accord, qui sont le propre d'Amalek, qui sont des incitateurs du peuple. Ce n'est pas le peuple allemand. C'est des incitateurs du peuple allemand pour les rendre haineux à notre égard. D'accord. Ça, c'est Amalek. Eux, c'est Amalek. C'est pas lui qui va prendre un pistolet qui va tirer sur quelqu'un. Il ne va pas faire ça. Par contre, il va aller vers comme Aman. Il va aller voir Ahasvéros et il va déclencher la haine contre le peuple juif. Il va chauffer. Ça, ça s'appelle le Séor. Nous disent nos sages, le Séor, ça, aucune pitié. Aucune pitié. Le Séor ne peut pas être éliminé. Et je comprends pourquoi il ne peut pas éliminer si c'est comparé au Séor. Donc au Hametz. Donc je comprends, Pepe Sar, je ne peux pas l'éliminer. Il ne peut pas être battel, Béchichim. Il ne peut pas être converti. D'accord. Il revient à chaque fois. Deuxième raison. Et pourquoi, dit ce sage? Il dit le mal de Prague parce qu'il amène ce qu'on appelle son intérêt, c'est d'être métamé à Israël. S'il n'arrive pas à le tuer, il veut arriver au moins à le rendre impur. Donc un métamé auto. D'accord. Troisième raison pour aller vite, après je vais passer au texte. Il dit la chose suivante. Vous savez que le Hametz est interdit à partir de la sixième heure de la veille de Pessah. D'accord. Vous connaissez ça. Je pose une question. Est-ce que vous avez l'équivalent dans une autre mitzvah de la Torah où la veille de la mitzvah, la veille de la fête, d'accord, à la sixième heure de la fête, vous êtes obligé d'arrêter. Par exemple, Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de faire, on va faire Shvita. On doit s'arrêter, d'accord. On n'a pas marqué que vendredi à 6h, à partir de la sixième heure, à 10h du matin, 10h30 du matin, on doit s'arrêter de faire tout ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qui fait qu'à Pessah, ou à Soukhot, on ne va pas demander à Soukhot, d'accord, de terminer notre soukha. D'accord, théoriquement elle est terminée, mais on peut la terminer en l'après-midi. D'accord. Il n'y a qu'une mitzvah dans la Torah où on doit la combattre, où on a ce qu'on appelle, itrachakut, un éloignement. On doit éloigner, si possible, comme à chez Yoter, au maximum, le Hametz de l'entrée de la fête. D'accord. Pourquoi cet écart-là? Comme une espèce de sas de décompression entre le Hametz, d'accord, et l'arrivée. Même s'il y en a pris du Hametz, il faudrait pas qu'il soit digéré complètement dans l'estomac pour pas que, quand on arrive, il faut se nettoyer les dents. Ceux qui ont des dents qui sont amovibles et qui doivent les nettoyer, etc. On doit éliminer le Hametz, mais bien avant l'entrée de la fête. Bien avant l'entrée de la fête. Ma pitam. Le rabbi de Gour, il donne une explication extraordinaire. Il dit, toujours pareil sur cette Gemara, regardez la richesse de cette Gemara. Rabbi Ishmael, il dit que ça ressemble à Esav. C'était quoi Esav? Esav est comparé. Dans les animaux interdits, vous savez, il y a 4 animaux interdits dans la Torah qui sont cités par Moshe Rabbeinu. 3 qui sont des ruminants, qui sont des ruminants qui n'ont pas le sabot fendu. 1 qui a le sabot fendu, mais qui n'était pas un ruminant. D'accord? Vous connaissez ça. D'accord? Les 3 qui n'ont pas le sabot fendu, d'accord? C'est le chameau, c'est le lièvre, le cheval, et l'animal qui a, et qui sont des ruminants pourtant. Tandis que l'animal, comme le porc, lui qui a le sabot fendu, d'accord, il a les signes extérieurs de la cacheroute, mais intérieur, il est impur. Ça, c'est Esav. Le monde dans lequel on vit, c'est le monde de Esav. C'est le monde de la générosité extérieure, c'est en français, les télétons, les je ne sais quoi, la générosité qui est affichée. C'est le monde aussi de la chrétienté. Sous-entendu, en extérieur, c'est la bonté, etc. Mais en fait, ça recèle des traits de caractère à l'intérieur de milieux qui ne sont pas travaillés. D'accord. Ça, c'est le monde qu'on appelle du mensonge. Esav est le monde du sheker. Il dit le rabbi de Gour, il y a marqué dans la Torah, Dvar sheker titrachek. C'est un pasuk de Tehilim. Tu dois t'éloigner du sheker. C'est quoi s'éloigner? Dans le sens de nos sages, c'est ce qu'on appelle mettre un seyag la Torah. Un seyag, c'est une protection, une barrière. D'accord? Cette barrière, il dit le rabbi de Gour, toutes les barrières de la Torah sont des rabbanan. Toutes les barrières de la Torah instituées par nos sages dans la Gemara, d'accord, sont des protections. Par exemple, vous avez des règles. On doit faire rentrer Shabbat à partir avant la Shkiat HaChama. En vérité, Shabbat rentre quand? C'est à Kochavim, d'après la Torah. C'est à Kochavim. Mais nous sages nous disent à partir de Shkiat HaChama Gvar, on doit commencer à s'arrêter. D'accord. Il y a ce qu'on appelle un Seyag, la Torah, une protection. Ils disent, nos sages, dans la Gemara, ça s'appelle une institution rabbinique. Avant, le rabbi de Gour, il dit, quand il concerne le Hametz, à la sixième heure, ça, c'est une institution d'Oraïta, de la Torah. Pourquoi? Ça ressemble au Sheker. Et de là, on apprend une chose, c'est que le shéker, un peu de shéker, c'est déjà plus de la vérité. Il y a des midotes dans la Torah que vous pouvez gérer avec leur contraire. Par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un qui est coléreux, réduire sa colère, travailler sur sa colère, avoir un minimum de colère sans que on se soit problématique. D'accord ? Mais il reste un petit peu de colère. Il y a deux midotes dans la Torah que vous êtes obligé d'aller à l'extrême pour les combattre. D'accord ? C'est la gaava et c'est le emet, ou du moins le shaker. Si vous avez la vérité et le mensonge, d'accord ? Si vous êtes dans la vérité, c'est qu'il n'y a pas de mensonge. Si vous avez un peu de mensonge dans la vérité, c'est plus de la vérité, c'est autre chose. C'est quelque chose qui. C'est plus blanc, c'est gris. D'accord ? C'est ou l'un ou l'autre. La gava, c'est pareil. L'orgueil et la anava. D'accord ? Là où il y a de la anava, il ne peut pas y avoir d'orgueil. Mais si vous avez un petit peu d'orgueil, c'est plus de la anava. Ça s'appelle la fausse modestie en français. Vous avez des noms qui expliquent. Ces deux traits de caractère sont les deux traits de caractère spécifiques de la matzah et qui combattent le hametz. Ces deux traits de caractère expliquent pourquoi nos sages nous disent que le hametz à Pessah, il n'est pas éliminé. Maintenant, on comprend la préparation qu'il y a. Une fois qu'on a fait cette préparation-là, de la fête, on arrive à Pessah et on s'installe au procédé. D'abord, on a la tfila de Pessah et après, on a la Haggadah. Et maintenant, écoutez bien, je vais essayer de traduire dans des mots simples des enseignements qui sont des enseignements du Hari Akadosh, du Harizal, sur l'enseignement de la fête de Pessah.
Un petit peu, élever un petit peu le son.
Oui.
Ne serait-ce que pour le...
Il capte très bien.
Ah bon.
Alvaï qu'on ait la même mémoire que lui. Parce que lui, il rentrera au Gan Eden, peut-être que nous, moins. Pessah, à partir du moment où on s'est préparé, autrement dit, on a combattu le Hametz, on arrive dans un état de préparation, on va dire, entre guillemets, excusez-moi l'expression, de stérilité. D'accord ? Comme si on rentre dans une espèce de chambre de bloc opératoire. D'accord ? On arrive à Pessah, et à Pessah, on reçoit un certain nombre de shefa, de flux lumineux qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, d'accord ? Qui est particulier. N'importe quel juif qui prépare la fête de Pessah, avoir un sentiment particulier de propreté et de nikiyut intérieur quand il s'assoit à la table du seder. Vous pouvez aller n'importe quelle famille qui est nettoyée, même avec un nettoyage adapté à leurs moyens ou en fonction de leur niveau de connaissance, d'accord ? Tous ont ce sentiment-là de nikiyut, de propreté et de tahara. Et le sort de Pessah, on a tous dans notre inconscient, depuis notre éducation, on a gardé ces moments-là très forts de transmission. C'est une fête qui marque. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit quelque chose qui est énorme le sort de Pessah. Comment ça se traduit ? Ça se traduit dans deux fois le Hallel. Il n'y a pas une fête dans l'année, il n'y a pas un jour dans l'année où le Hallel est prononcé le soir. Vous ne trouverez pas. Non seulement il est prononcé le soir, mais il est prononcé deux fois. Une fois à la Tfila, et une fois dans la Gada, même s'il est coupé en deux. Avant le Maguid, enfin, dans le Maguid, et après, chez Fort, après on continue après le Birkat Amazon. On a donc le Hallel deux fois. Pourquoi ? Il faut savoir qu'à Pessah, pour être préparé, après s'être préparé, on reçoit ce qu'on appelle une quantité de qu'on appelle en hébreu du Lachon, c'est l'expression du Zohar, du Hari Akadosh, des Mochin, des Gadlout. Le Katout et des Gadlout. Mais ce que c'est Mochin ? Mochin vient du mot en hébreu Moach. Moach, je vais le traduire en français par une supraconscience. Une aptitude de compréhension qui est jamais atteinte dans un autre jour de l'année, en tout cas dans un autre soir de l'année. On a donc une amplitude de Gdusha, le soir de Pessah, qui n'est jamais atteinte. C'est le sommet de ce qu'on peut atteindre dans le judaïsme un soir de fête. D'accord ? On le tient le soir de Pessah par le fait de faire les Arba Kossot, d'accord ? Les trois matzot qui vont se transformer d'ailleurs en quatre matzot, tout va tourner autour de quatre, les Arba Banim, d'accord ? Les quatre galouyotes dont on va parler avec le Chida à la Shalom, tout tourne autour de quatre, d'accord, comme étant une base. Et les mochines et katnout des gadlout aussi, ce qu'on appelle les mochines, autrement dit, ces forces de conscience qui vont nous habiter, sont aussi au nombre de quatre. Maintenant, le problème, c'est que ces forces-là que l'on reçoit le soir de Pessah, d'accord, on les reçoit sans mérite. On n'a pas travaillé pour les recevoir. On a travaillé pour être stérilisé. D'accord ? Sinon, on n'aurait rien reçu. Mais on n'a pas mérité. La preuve qu'on n'a pas mérité, à partir de Khatsat al-Layla, tout ce que Kadosh nous donne, il nous le reprend. C'est pour ça qu'il faut manger la ficomane avant Khatsat al-Layla. Vous savez qu'il faut manger la ficomane avant Khatsat al-Layla. Les Khatrila, c'est mieux. Bon, si quelqu'un a dépassé la Agada qu'il a mangé après, il y a un tzad de éther dans la halakha, mais c'est bien de manger la ficomane avant ou à Khatsat al-Layla. Pourquoi Khatsat al-Layla ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Azmaï après. Après, tout ce que Kadosh nous a donné, nous le reprend. Pourquoi il nous le reprend ? Alors, s'il nous l'a repris, pourquoi il nous l'a donné ? Il y a un principe dans la Torah, c'est qu'un homme ne peut atteindre que ce qu'il connaît déjà. Ça paraît bizarre, comme ça, dit comme ça, mais c'est exactement ce qui se passe dans le ventre d'une maman. Un bébé dans le ventre, un fœtus dans le ventre d'une maman, apprend toute la Torah avec un malach, nous dit la Gemara de Nida. Vous savez qu'il y a un malach qui vient enseigner la Torah à un bébé dans le ventre de sa maman. Et puis avant de naître, ce malach vient lui donner un coup. C'est ce qui explique qu'on a une espèce de trait là sous le nez, entre les narines, qui sépare ici, là. Au niveau de la moustache, il y a quelques hommes qui ont des fois la moustache, qui ont cet endroit qui est blanc, d'accord ? On appelle ça orha, en hébreu. Qui va séparer, et qui fait qu'il oublie toute la Torah. Et s'il oublie toute la Torah, pourquoi lui a enseigné toute la Torah ? La Torah, le principe qui est développé par nos sages, par la Torah qui nous enseigner, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Akadosh Baruch Hu nous donne l'amplitude à atteindre, et nous le retire. S'il ne nous avait pas donné la possibilité de regarder ce que c'est que l'amplitude, jamais, écoutez-moi bien, jamais j'aurais été capable de réatteindre ce niveau-là. Jamais. Les forces qui régissent ce monde sont des forces qui nous écrasent totalement. D'accord ? Elles sont citées dans la Gemara aussi, dans la Haggadah de Pessah. Charon Af, Zaham. Vous connaissez les quatre forces, les quatre Malaché Chabala dont on parle dans la Haggadah. Il y en a quatre. Comment c'est qu'il y en a quatre ? Tiens, c'est bizarre, il y a aussi quatre mondes dont on parle. Asiya, Ebriya, Yetzira, Atzilut. Quatre forces de Chabala. Quatre malachim qui sont venus détruire. Vous savez, quand on fait la Brit Mila à un enfant, on a trois opérations. On a ce qu'on appelle Bria. Mila, Bria et Metzitsa. C'est quoi la Mila ? C'est de couper le prépuce. C'est quoi la Bria ? Il y a sur le gland de l'enfant une espèce de peau très fine, d'accord, qui le recouvre. D'ailleurs, les Arabes ne font pas ça. D'accord, c'est ce que nous distingue avec eux. En plus, ils ont une Mila qui font une Mila Tov, à cet endroit-là. Le Moël doit déchirer cette peau-là sur le gland du bébé. Après, on a ce qu'on appelle Metzitsa, ce qui revient en fait à aspirer le sang qui est sur la Mila. Généralement, on le fait avec la bouche. Ah, de notre temps, il y en a qui commencent avec toutes les maladies qu'il y a, etc. Ce qui pose problème, à mon avis, les maladies sont venues du problème qu'on ne fait pas la métissage avec la bouche. Parce que la bouche se dit en hébreu PP, c'est Gematria 85, et Mila, c'est aussi 85, c'est la même Gematria. Donc la P est adaptée à la Mila. D'ailleurs aussi, celui qui fait la Shonara, malheureusement, celui qui faute par la bouche, faute aussi par le Brit. Et celui qui faute par le Brit, fautera par la bouche aussi. Les deux sont liés. Sachez une chose, que la bouche et le bruit d'un homme sont liés de façon intime. Ce qui fait que ce qu'on appelle les pertes de substances séminales proviennent de la manière dont on parle aussi. Donc la toucha qu'on a au niveau de la bouche se traduit par la toucha au niveau de ce qu'on appelle du bruit. On a aussi trois opérations. Vous savez pourquoi on fait ces trois opérations, dit le Zohar ? Ces trois opérations viennent neutraliser les trois des quatre forces dont on a parlé tout à l'heure. Ces quatre forces sont constamment en travail, constamment en péoula, c'est le monde dans lequel elles sont. C'est leur monde. En vérité, elles sont construites dans des mondes qui sont inférieurs à notre monde, mais leur monde d'action, c'est le monde dans lequel nous vivons. Elles peuvent prendre un homme et le déchirer en allumettes, décomposer quelqu'un en allumettes. Vous ne pouvez pas combattre le Yetzara. Exemple, si vous vous dites par exemple ce matin, ce soir je vais étudier une heure, je vous garantir que ce soir, une minute, vous n'étudierez pas. Par contre, si vous dites « je vais essayer d'étudier 10 minutes », vous avez toutes les chances d'étudier une heure. En fait, ce monde, c'est un monde de combat avec le Yetzirah, avec ses forces, qu'on appelle Yetzirah. On les recoupe sous ce qu'on appelle le titre Yetzirah. Mais ce sont ces quatre forces-là. La Brit Mila, pour un juif, donne la possibilité de combattre trois. Elle neutralise les trois, sans laquelle, neutralisation, j'aurais pas pu vivre. Si un homme n'avait pas été circoncis, on dit quelqu'un qui n'est pas maoul, n'a pas d'accès à la Torah. Vous ne pouvez pas rentrer dans la Torah. Vous ne pouvez pas accéder à des textes de Torah. votre esprit est complètement fermé. D'accord ? Reste ce qu'on appelle la quatrième force, qu'on appelle Noga. Cette quatrième force qui d'ailleurs est intervenue aussi, les quatre anges qui sont oui. Bien que Jbrou les a dirigés contre les Égyptiens, d'accord ? Ils ont fait ce qu'on appelle Mahechabala, ils ont détruit l'Égypte, ça a donné la sortie d'Égypte, d'accord ? Et notamment aussi quand ils ont traversé la mer Rouge. Noga va donner ce qu'on appelle Yetzaratov Yetzarara. C'est-à-dire en fait, ce que nous on requalifie après pour nous notre Yetzarara, c'est l'influence que l'on a de cette force-là qu'on appelle Noga, qui est la seule qui n'est pas neutralisée par la Brit Mila. Vous vous rendez compte ? Maintenant, vous vous rendez compte, une Brit Mila, comment c'est important ? Comment une Brit Mila fait réaliser de façon correcte, comment elle peut conduire un homme à se protéger naturellement plus tard ? Comment protéger un enfant plus tard dans sa vie pour avoir un accès dans la Torah et pour sa vie lui-même ? D'accord ? Sinon, il est broyé. Il est littéralement broyé par les forces qui sont dans ce monde. Et il suffit de voir le goyim. Moi, quand je regarde, par exemple, je vois la chrétienté. Ils parlent de problèmes de sexualité avec les prêtres, etc. C'est impossible. Ça fait rire le judaïsme depuis des millénaires. Depuis le Maharal de Prague qui avait des grands amis qui étaient dans l'église catholique, d'accord ? Le principe même du fonctionnement de l'église est un principe qui est antinomique avec la nature humaine. Je ne parle pas de la Torah. La nature humaine. Contraire. Complètement contraire. Alors après qu'il arrive à des dérivations, à des dérives au niveau comportemental, pour la Torah, c'est tout à fait normal. Ça pose même pas la question. On se pose même pas la question. C'est même étonnant que ce soit pas arrivé avant. D'accord ? La Gemara elle dit, la Chochma vous pouvez la trouver chez les nations. Oui. Vous trouverez jamais la Kedusha chez les nations. C'est pour ça que quand quelqu'un est malade, Dieu préserve, il peut aller voir des très grands professeurs même chez les goyim. Des grands professeurs, des grands chirurgiens. Par contre, si c'est un problème au niveau psychique, c'est arvarak la Torah. Arvarak la Torah. Surtout pas aller voir quelqu'un qui va vous introduire à l'intérieur des idées qui sont déjà tordues. Déjà lui, il a des problèmes. À quoi la koum ? Donc ça donne des problèmes à la... transmet ces problèmes-là. D'accord ? La Kedusha ne se trouve que dans le peuple juif. Et la Kedusha, ça demande un travail énorme de fonctionnement. Et l'un des paramètres, un paramétrage de la Kedusha, c'est la fête de Pessah. Donc à la même manière qu'un enfant est né dans le ventre de sa maman, on lui a appris toute la Torah, après on lui a tout pris. Mais parce qu'on lui a tout pris, et qu'on lui a tout donné avant, il aura la possibilité dans sa vie de pouvoir tout réétudier. Sinon, il n'y a pas d'étude de première fois. Même si on fait chirer un homme, il n'y a pas d'étude de première fois. On ne refait que redécouvrir ce qu'on a déjà étudié. À Pessah, que Jboukhou nous donne ce qu'on va recevoir à Shavuot, et même plus à Shavuot. Seulement à Shavuot, on va le mériter. Comment on va le mériter ? Par la Sphère Taomer. On va regarder ce que ça donne. Si à Pessah, vous avez reçu ça, mettons, si je donne une gradation, d'accord ? Après, je vais montrer aux dames. Je donne une gradation. À Pessah, ça c'est zéro, et ça en Kedusha, j'arrive à ce niveau-là. Je reçois un flux lumineux de là. Arrivé à Chatzot Alayla, à la Fikoman, tout redescend à zéro. Le lendemain de Pessah, j'ai tout perdu. Que Jehovah nous a donné, il a tout repris. Pourquoi ? Vous avez travaillé pour ça ? On vit ce qu'on appelle un crédit. On vient demander à Kajbro, Bachraï, combien ? D'accord ? Alors Kajbro, il dit, bon, allez, je vous fais confiance, combien on peut miser sur lui ? Combien on peut donner de crédit à cet individu ? Kajbro, je vous fais crédit. Je vous fais crédit jusqu'à Shavuot. Sans ce crédit-là, donc je vais vous le donner, vous allez être néné de la fête de Pessah, mais la fête de Pessah, c'est pas manger du... des shkemba ou je ne sais pas ce qu'il y en a qui mangent. C'est pas ça le problème. C'est qu'une fois qu'on a reçu ça, qu'on a géré ce potentiel, quand on l'adapte avec la Gemara, on va voir tout à l'heure, d'accord ? C'est un potentiel qui est un potentiel à moi d'élévation au niveau de mes midot. Sans ça, jamais je peux recevoir la Torah. Matan Torah, il va avoir lieu. Le Sissivan, il va y avoir Matan Torah. Mais Kabbalah Torah, il n'y aura pas. On va passer. Et comme je vous dis tout à l'heure, la minorité du peuple juif fait Shavuot, alors que la majorité fait Pessah. Où sont passés les autres, les gens ? Où sont passés les juifs dans le moment ? Le Zohar dit que la Sfirat Taomer, d'accord ? Qui est en fait le système qui va passer de là, après qui va permettre par un escalier de récupérer tout ce que j'ai reçu, je le récupère par la Sfirat Taomer, jusqu'à arriver à Shavuot, le soir de Shavuot. Le soir de Shavuot, la veille de Shavuot, je suis au même niveau. Le lendemain de Shavuot, j'atteins un autre niveau. je suis catapulté encore beaucoup plus haut. Et il y a une kedusha particulière à ce Shavuot qui fait que malheureusement on est chattah des chattah, parce qu'on a tous fait la veillée. Et malheureusement, à la prière de Moussaf, au moment le plus haut, au niveau sainteté de l'année, je précise, de l'année, au niveau kedusha, c'est la kedusha de la fête de Shavuot, d'accord ? Généralement, on est un peu fatigué. On va dire, vous voyez ce que je veux dire ? D'accord ? On pique du nez, d'accord ? Ce qui fait que, sachez une chose d'ailleurs, une chose aussi, c'est que tous les endroits où on a des chulshot, des faiblesses dans la Torah, c'est des endroits de grande kedusha. Le Yetzerara, il va pas se battre avec vous pour des bêtises. Il va se battre avec vous pour les moments de Kedusha. C'est là où ils sont. C'est là son travail. Il va pas vous faire tomber pour. D'accord. Quand on va s'énerver le soir de Pessah. Le soir de Pessah, d'accord. Mesdames, le soir de Pessah, combien de fois on renverse un verre de vin? À chaque fois on renverse le verre de vin. Vous avez toujours un gosse qui vient, il vous renverse ça. On n'a même pas démarré le CDR, il vous a déjà mis la 400 sur la table. D'accord. Mais c'est ce qu'il veut que je vous rende. Ce n'est pas le problème d'avoir une table qui soit blanche. Une nappe qui soit blanche, d'accord, avec un céder qui soit correct, c'est pas ça le problème. Bien que ce soit le céder, et qu'en hébreu le céder c'est bécéder, d'accord, c'est pas ça le céder. D'accord, le céder c'est la maîtrise, le contrôle de ce que l'on est. Et à Kadosh Baruch Hu, Dafka, maintenant je veux voir si tu es capable de t'énerver, d'accord. Ah, parce qu'on a oublié ça à table, ou parce qu'on n'a pas fait ça, ou parce qu'on n'a pas fait ça, ou qu'on est surexcité, ou qu'on est fatigué. Les raisons, vous pouvez faire des raisons de d'ici jusqu'à chez moi à Beit Shemesh. Aligner les raisons que l'on a d'être sous tension le soir de Pessah. Des quantités, d'accord. Aucune ne justifie le comportement que l'on a par rapport à ça. À partir du moment où vous l'avez compris. Vous l'avez compris, on commence à rire avec le Yetzara. On commence à rigoler avec lui. Parce qu'on commence à comprendre qu'au moment où le Yetzara me chatouille, je suis persuadé que je suis en train de mettre le doigt sur quelque chose de kadosh. Je suis persuadé. Il y a que je me teste. Il ne me teste pas moi seul avec mon CDR bien organisé, bien préparé. Il me teste en famille, avec les enfants, avec le balagan, d'accord, avec quelque chose qui se renverse. Et puis il y a des énervements, et puis il y en a qui a dit quelque chose qui dépague. Et puis je ne vais pas détailler pour ne pas faire encore plus de kitroug, mais ça fait partie de la fête. Le problème, c'est de gérer le stock maintenant, l'intensité lumineuse que l'on a, et l'appliquer. Et la Torah nous dit, sache une chose, cette intensité lumineuse qu'on appelle des mochines est une supraconscience que je te donne, gratuite. Je l'ai fait cadeau. Maintenant, arrivé à Hatzot, demain, Sfirat HaOmer, premier jour, Sfirat HaOmer, c'est récupérer ce que j'ai perdu. Mais seulement maintenant, on va le décomposer en 49 paliers. Pourquoi 49 paliers? Parce que 49, c'est un chiffre qui est 7 fois 7. C'est 7 semaines. Pourquoi 7 semaines? Ça correspond à un rythme humain. Kadosh Baruch Hu nous a quelque part, entre guillemets, violé par une quantité de lumière qu'on n'est pas capable. D'ailleurs, tous ceux qui étaient en Chutz La'aretz comme nous, on a toujours le regret du deuxième jour de fête. Le jour de fête, on n'est plus calme. Peut-être qu'on n'est plus calme. Il n'y a plus l'intensité lumineuse qu'il y avait le premier soir. Il n'y a plus de tzara. Là, vous pouvez gérer, vous pouvez kiffer la Haggadah pour le deuxième soir. Non, monsieur Al-Gobi, vous kiffez la Haggadah le deuxième soir de Pessah. Hein, mon beau-père, il me dit, dommage qu'on ne fait pas un deuxième jour de fête. Bataille. Mais le problème est que tout ce qu'on avait, on nous l'a repris. Qu'est-ce qui reste? Rien du tout. Le premier soir de Pessah, le deuxième soir de Pessah, c'est le premier jour du Homer. C'était un 49e de ce qu'on avait reçu la veille. Ah, vadaï que le Yetzerara, il est 49 fois plus petit. D'accord? Il vient vous taquiner juste un petit peu comme ça. Et donc, tout ce qui reste de la veille, vous pouvez manger, kiffer, etc. Sfirat HaOmer, c'est un système, c'est pour ça qu'on dit son sage, que tout le principe du Sfirat HaOmer est un système qui est basé sur les Pirkei Avot, c'est un problème de construction des midot. Pourquoi? Un homme doit recevoir la Torah, il doit se transformer maintenant en Ben Adam. Mais non. Ramenez ça au peuple juif en Égypte. Lorsque les Égyptiens sont sortis d'Égypte, ils n'avaient pas de mérite. Qu'a fait Kadosh Baruch Hu? Il a contracté le temps en augmentant la puissance de la souffrance pour pouvoir faire sortir le peuple juif. Vous croyez qu'il méritait de sortir? Sont venus les anges, comme dit Kadosh Baruch Hu, dit. Elo Avdavdazara, Elohem Avdavdazara. Quelle différence entre cela et cela? C'est la même tourbe. Tu as tué cela, pas tué cela. Oui, mais ceux-là, ils vont recevoir la Torah. Ils ont accepté de recevoir la Torah. C'est-à-dire, je leur fais crédit, ils ont accepté le crédit et de me rembourser. Ah, sur ça, d'accord. Aime à la saute. Puisqu'ils ont accepté.
Ils ont accepté ou ils vont accepter?
Ils vont accepter, mais à partir du moment où ils sont sortis d'Égypte pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'a dit Moshe Rabbeinu à Pharaon. Ils ont accepté le principe de recevoir la Torah, c'est ce que va dire le Chida. Maintenant, si vous voulez, on va rentrer. Pour pouvoir comprendre. Maintenant, vous avez compris la structure, comment ça fonctionne. Et maintenant, pourquoi on a le Sefirat Omer est lié? Et on dit, le Zohar, il dit que quelqu'un qui ne compte pas le Homer, quelqu'un qui se trompe dans le Homer, d'accord, ça peut amener ce qu'on appelle, selon le terme, ce qu'on appelle le terme du Zohar, shtout. C'est quoi shtout? Shtout, c'est une folie. D'accord? Il faut savoir qu'un homme faute, berouar shtout. Pourquoi un homme faute? Pourquoi un homme arrive à fauter? Parce que ses mochines, au moment où il faute, ses mochines lui échappent. Et à la place de ce qu'on appelle ses mochines, c'est-à-dire sa conscience de juif, rentre ce qu'on appelle un rouar shtout, un vent de folie, qui le fait fauter. Vous avez des gens qui sont des gens très respectables, qui vont faire des bêtises, des boulettes graves. J'étais une fois, je crois que je vous l'ai raconté, au supermarché une fois avec ma femme, et j'étais en train de faire la queue, il y a quelques mois, on était en train de faire la queue dans un supermarché, j'habite dans un quartier haredi, on va dire, donc des gens qui sont un peu habillés tous comme moi. Donc on était en train de parler, il y avait deux couples devant nous, et un type qui était en train, à la caisse en train de payer. Simoulev, il était en train de payer, et il a constaté que la caissière, c'est une petite éthiopienne, elle s'est trompée dans le compte. D'accord? Ça ne correspondait pas au prix. A priori, le prix qui était marqué, ce n'était pas le prix qui était indiqué dans la caisse. D'accord? Il a commencé à crier. La fille, elle a dit non, c'est ce qui, est, voilà, c'est ce qui sort de la machine, etc. Puis il a commencé à s'énerver. Puis il s'est emporté. Attention, je vous parle de quelqu'un, un chapeau sur la tête, puis une barbe, chapeau sur la tête, et il y a tous les gens qui regardent. Moi, je suis derrière. Il l'a explosé. Explosé, s'est énervé. La fille s'est mise en pleurs. Je vous garantis, je me suis mis en place, j'étais très mal pour lui. J'étais très, très, très mal pour lui parce qu'après, il est arrivé la caissière principale. Elle dit, voilà, Donny, c'est d'agamour. Tu as besoin de la mettre comme ça, de la rendre. La fille, elle s'est levée, elle est partie. La petite, elle est partie. Donc, la caissière principale s'est installée, elle a fait le compte, etc. Finalement, il est parti. J'ai dit à ma femme, la chose suivante, ce que dit le Khafet Sraïm. Je lui ai dit, je peux te garantir que cet individu-là, dans 10 minutes, il va se mordre les doigts. Il va se mordre les doigts rétroactivement. Ce qu'il a été capable de faire en public. D'accord? Parce que celui qui a fait ça, c'est quelqu'un qui a une tête qui passe sur la tête, un chapeau sur la tête, c'est quelqu'un qui étudie. D'accord? Donc s'il y a quelqu'un qui étudie, quelque part il y a une conscience. Regardez à combien de temps, ce qu'on appelle Avrahat Amochim, la conscience qu'il a de juif, lui échappe. Et ça, la puissance qu'il y a, que la Torah nous donne, le soir de Pessah, quand je vous donne une puissance très élevée, de façon concentrée, de telle manière que l'impact qui m'a été donné le soir de Pessah, j'en ai le maximum d'inertie jusqu'à que j'arrive à Shavuot. Et que j'échappe justement à ce genre de problème pour pouvoir me construire. C'est donc une tova énorme que me fait Dieu. Vous n'avez aucune idée de la tova qu'il nous fait. C'est une tova, c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah, il y a marqué avant de parler d'Arba Banim, il y a marqué Baruch Hamakom, Baruchou, Baruch Shantan Torah, l'amour Israël, Baruchou, quatre fois Baruch. C'est une question que pose le Rida, juste la question qu'il va poser, c'est ça. Baruch Hamakom, Baruchou. Baruch Shantan Torah, l'amour Israël, Baruchou. Et combien la Gada de Pessah, on ne parle pas de Moshe Rabbeinu. On parle combien on glorifie l'Éternel. Et on devrait le glorifier encore plus pour la Tova qui nous fait de nous protéger. Belet Brera, même si nous, on n'est même pas conscient, on n'a même pas conscience de la protection qu'il nous envoie. Et cette protection-là, elle nous gagne jusqu'à la fête de Shavuot. Une fois que j'ai présenté ça, maintenant vous allez mieux comprendre maintenant le texte du Rida. On peut s'arrêter 10 minutes
10 minutes, un quart d'heure. Donc 10 minutes, un quart d'heure, on reprend 11h moins quart.